France Culture.
Les midis de culture. Marie Laborie.
Elle dit que c'est peut-être son dernier album. Florence Sestac met en tout cas un point final à sa série dessinée Le Démon. Son héroïne, créée il y a 30 ans, est maintenant une septuagénaire. On parlera de ce démon de mamie avec elle. Elle sera mon invitée à partir de 13h. Mais d'abord, et comme chaque jour, on commence avec notre plateau de critiques. Aujourd'hui, on parle des nouveaux livres de deux grands romanciers français qui se racontent sans complaisance, mais avec pas mal d'humour, on va le voir. Pierre Michon avec J'écris l'Iliade, qui paraîtra ce jeudi chez Gallimard. Et Olivier Rollin avec Vers les îles éparses, qui apparaît chez Verdier. Voilà, vous connaissez le menu. Bonjour à toutes et à tous. Et pour vous servir, Johan Farber, éditeur, essayiste, critique littéraire, co-rédacteur en chef de la revue Collatéral.
Bonjour. Bonjour. Marie.
Romain Debecq de Lièvre, dramaturge et producteur à France Culture.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue à tous les deux. Alors, on commence avec ce nouveau Pierre Michon. Je suis à peu près sûr que cette expression « le nouveau Pierre Michon » doit le hérisser. À travers ses textes réunis sous le titre de « J'écris l'Iliade », l'auteur raconte sa trajectoire et il dit sans rire « Je suis un monument ». C'est vrai qu'il l'est. Son roman « Les 11 Grand Prix de l'Académie française en 2009 » a fini de le canoniser. Ici, il navigue entre récits d'aventure, textes érotiques, réflexions sur la littérature, épopées, loufoqueries. Vous avez compris, c'est pas très simple de le résumer. Et lâchement, je vais laisser faire nos critiques. On commence avec un avis rapide de l'un et de l'autre. Romain Debecq de Lièvre.
Alors, j'écris l'Iliade, oui. C'est un livre, c'est un texte fou, j'ai trouvé. La question de la folie revient assez précisément. Enfin, de littéraire, la folie littéraire. Grandiloquent, contradictoire et tout à fait désarçonnant. C'est une espèce de forteresse, on tourne autour sans trop savoir ce que c'est, un peu comme dans l'Iliade.
Johan Farber.
Moi, je dirais que effectivement, c'est un texte mal aimable et qui pose en fait un certain nombre de questions à une figure dans laquelle est en fait coincé Pierre Michon depuis 1984, la parution des Vies minuscules, c'est-à-dire que c'est en fait ici un texte qui veut démolir le statut de Pierre Michon, à savoir celui du grand écrivain. Mmh. Toute l'œuvre de Michon s'est constituée sur une réflexion contre le mythe du grand écrivain, et lui-même s'est retrouvé de son vivant piégé dans cette stature de grand écrivain. Et J'écris l'Iliade, c'est une manière de passer pour lui cette névrose.
Romain Debecq de Lièvre, alors désarçonné par cette lecture.
Oui, alors désarçonné d'abord dans le style, parce que Pierre Michon, faut rappeler aux auditeurs, avec donc Les Vies minuscules, puis des textes comme Les Onze, c'était un écrivain qui se singularisait par un certain style, c'était la question du style était assez centrale, avec des phrases assez longues, une construction très très élaborée, et là il coupe l'herbe sous le pied littéralement de tout, parce qu'on a des phrases courtes d'abord, c'est-à-dire très concrètement, il écrit des phrases très très courtes, et il construit ce récit en chapitres alternés entre des récits mythologiques qui remontent à l'Antiquité la plupart du temps, donc on va avoir beaucoup d'histoires, l'histoire de Pasiphae et du taureau, l'histoire de Actéon et Artémis, voilà, donc il va retravailler des mythes, et au milieu, on va avoir des textes qui vont s'attaquer aux contemporains. Ça fait une espèce de texte de montage très étonnant. Pour moi, c'est un texte qui est anachronique et chronique d'une certaine manière. Puisque donc il essaie de et à travers tout ça, il y a la question de l'érotisme, c'est-à-dire la question centrale du désir sexuel qui anime aussi bien la partie du passé que la partie d'aujourd'hui.
Romain, est-ce qu'on peut juste écouter un petit extrait?
Bien sûr.
Et je vous redonne la parole. On écoute ça, c'est un extrait lu par Marceau Vassy.
J'eus à 26 ans une aventure ferroviaire, à la faveur de laquelle je devins un autre. J'allais à Lyon. J'y allais faire mes 3 jours. Un mot sur cet usage dont le sens est perdu. C'était encore l'époque du service militaire obligatoire. Les conscrits, à qui on avait accordé un sursis d'études, devaient, pour confirmer leur aptitude aux armes, faire en caserne un bout d'essai avant d'être versés dans un régiment et entrer de plein pied, hussard ou artilleur. C'était cet examen, les 3 jours. De vagues tests de santé et de capacité mentale, de sociabilité élémentaire. On retenait ceux que leur étude n'avait pas gâtés et on laissait tomber les excités. J'avais reçu la convocation chez ma mère, dans une campagne de l'Ouest. On m'appelait pour les 3 jours à Lyon, au bout du monde. J'avais toute la France à traverser. Pas de TGV à cette époque. Les changements de ligne étaient innombrables, les voyages sans fin. Pour gagner Lyon, il me fallut un jour plein et une pleine nuit. Je conserve du cœur de cette nuit une empreinte mémorable.
Alors là, l'érotisme va poindre, il n'y est pas encore. Hein.
L'érotisme va poindre dans un milieu ferroviaire, ce qui est pour le coup assez étonnant, avec des machines ferroviaires érotiques, on pourrait dire ça comme ça. l'ambition de Michon, c'est de faire un texte sur l'amour et la guerre, c'est-à-dire sur l'Iliade. Très, très simplement, l'Iliade, une histoire d'amour et une histoire de guerre. Cette idée-là, elle va se connecter et ça va donner des choses qui sont, alors pour moi, peut-être un peu datées. La question du Georges Bataille, il y a tout cet imaginaire-là, Sade, la conflictualité dans le sexe, la conflictualité dans la guerre. Et ça, c'est assez drôle de lire ça maintenant parce que on se rend compte aussi de la structure de ce récit-là. C'est-à-dire, on le voit comme quelque chose d'assez construit. Moi, il y a des textes que j'ai trouvés magnifiques. C'est-à-dire un texte qui s'appelle Casque, où on a le récit d'Homère, par exemple. Michon, quand il raconte l'Antiquité, et ce que lui permet ce dispositif à phrases courtes, c'est une prise directe. Il a envie de nous raconter l'Antiquité comme au présent. Et il y a des moments où ça marche. C'est-à-dire, il y a un moment où il raconte Homère qui devient aveugle, et il fait comme si Homère avait vraiment vu la guerre de Troie, ce qui est archi gonflé. Innocent d'une certaine manière, enfin, on a une espèce de geste comme ça très étrange, et on sent que c'est ça qu'il veut faire. Et avec l'idée de défaire sa stature de commandeur de la littérature, etc., il cherche un contact direct. Il y a un moment aussi où une femme lui raconte l'histoire d'Alexandre, il va dire « je suis Alexandre ». Enfin, il y a quelque chose comme ça de très très concret, et la réflexion la plus intéressante, je trouve, c'est la question des dieux. Qu'est-ce que c'est un dieu ? Qu'est-ce que c'est un dieu hier, dans les choses, dans les objets ? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Et ça peut couvrir une multitude de champs, et ça, c'est la dimension la plus puissante, je trouve, de ce texte.
Johann Farber, livre mal aimable, c'est le mot que vous avez employé, c'est fort.
Oui, c'est un livre qui, en fait, est fait pour être, à mon avis, sciemment construit par Michon, pour être détesté par les lecteurs fervents de Michon. C'est-à-dire que Michon, ici, supporte très mal ce qui est, en fait, il est prisonnier de cette œuvre et de sa classicisation. C'est-à-dire que, de son vivant, il a été enfermé, malgré lui, dans ce mausolée, et il est très attendu pour un style, on va dire, néoclassique, qui n'a jamais été le sien. Michon n'a pas de style néoclassique, dès Les Vies minuscules en 84 ou en 88 avec La vie de Joseph Roulin ou un superbe texte comme Corps du roi en 2002, c'est une phrase qui alterne toujours grandes envolées et aussi un caractère très terre-à-terre. Et ici, Michon veut profaner Michon, c'est-à-dire que c'est un texte non pas de formation. On a entendu tout à l'heure dans l'extrait qu'on avait l'impression qu'on reprenait tout le récit de formation, les premières expériences sexuelles, mais en fait c'est un récit de déformation et je dirais de profanation. C'est un texte très dur envers les lecteurs de Michon. Il y a une déconstruction.
Alors pourquoi ? Voilà, qu'est-ce qui est
déconstruction. Ouais. En fait, Michon ne supporte pas ce qu'il appelle les sectateurs, c'est-à-dire la secte des michonistes. Et donc, par exemple, les femmes qui assistent à ses lectures, il les appelle les rombières. Les chercheurs qui travaillent sur son œuvre, il les ridiculise en disant que ils se querellent pour rien, parce que de toute façon, au bout d'un moment, ils sont tous toujours d'accord. Et puis, il s'attaque aussi aux auteurs qu'il appelle effectivement des gens incultes, et on voit bien que le but de Michon, c'est de détruire le monument Michon, c'est-à-dire de véritablement mettre à bas cette stature de grand écrivain. J'ai cité à l'instant Corps du roi, et dans Corps du roi, ça s'ouvre sur un superbe texte sur Beckett, et à l'intérieur de ce texte, il distingue deux choses. Il distingue que le roi a deux corps, un corps sacré, et c'est jusque-là ce qu'on a vu de Michon, c'est-à-dire un corps sacré. Et il dit qu'il y a aussi le corps mortel, charnel, le Saccus Merdae, et c'est en fait, j'écris l'Iliade, c'est le Saccus Merdae. Je voudrais rappeler que l'Iliade, l'argument de l'Iliade, c'est la colère d'Achille. Et je dirais que j'écris l'Iliade, c'est la colère de Michon envers Michon, grand écrivain. Et de ce point de vue-là, c'est une construction extrêmement habile et qui pose une question à la critique, aux critiques que nous sommes réunis autour de cette table, c'est avons-nous bien lu Michon ? Allons-nous être encore en extase devant lui alors que tout est construit pour que nous ne le soyons plus ? Et je trouve que c'est un geste extrêmement, extrêmement fort qui avait été amorcé il y a 2 ans dans les deux beunes, qui, avec l'ajout d'une deuxième beune, la petite beune, qui venait réécrire la première et où la grande beune était en fait vraiment mise par terre. Et je crois que c'est vraiment cet effort-là de destruction qui, à mon sens, pour un écrivain, n'a jamais été tenté. Et ce qui rend ce livre tout à fait admirable et une curiosité littéraire totale qui joue de ses défauts. Et ça, c'est assez rare pour le dire.
Mmh. Oui, c'est un livre qu'on sent qui est traversé par un rire. Il y a un rire, une dérision, un destructeur.
Quel type de rire,
très,
voilà.
Très inquiétant. Il y a une scène, le dernier texte, je crois, c'est un auto-da-fé. Donc, c'est-à-dire un personnage qui brûle les livres. Enfin, de tous les livres du patrimoine. Voilà. Donc, une scène absolument mal aimable, comme dit Johan. Voilà. Et donc, Michon, il est là-dedans. Et alors, ça produit un texte, en fait, qui est très, très étrange, puisqu'on a à la fois, ce que je disais tout à l'heure, cette volonté de prise directe, d'aller directement dans le mythe, dans le sexe, dans le corps, dans quelque chose de très sensible, charnel, etc. Et en même temps, un texte qui est extrêmement, comment on dit aujourd'hui, méta. Je sais pas.
Oui, c'est la grande, il y a des références sur Borges.
Il y a tout un texte qui démarre, on pense que c'est Pierre Michon qui écrit à la première personne, parce que ça se passe chez les écrivains, chez Gallimard, etc., quand tout d'un coup apparaît le personnage de Pierre Michon. Donc on se dit, ah, le jeune n'est pas Pierre Michon. Rien n'a l'air de ce qu'il a l'air d'être. C'est quelqu'un d'extrêmement... Voilà, et quand je parlais du rire, c'est un livre qui est extrêmement rusé. C'est-à-dire qu'au dehors de toutes ces histoires-là, on sent qu'il y a quelqu'un qui ruse en permanence, qui construit des faux-semblants en permanence, et ce double mouvement d'être à la fois très brutal, très violent, très direct... Et en même temps réflexif, il y a ces deux dimensions-là qui sont ensemble. Et ça, c'est quand même un geste littéraire qui est très étrange. Enfin, c'est pas tous les quatre matins qu'on lit un texte comme ça.
Et dans un texte très ramassé.
Oui, en plus, dans quelque chose qui est très fort. Après, vu la variété, on a une impression à la lecture de très très grande densité aussi.
Bah oui.
La variété des registres, entre les récits, voilà, qui empruntent à une manière, enfin, je sais pas, il y a des choses. Je pense à l'histoire du taureau.
Il s'en remet pas,
faut parler
en fait,
de l'histoire du taureau blanc. Donc c'est l'histoire de Pasiphaë qui nous raconte, Pasiphaë qui tombe amoureuse d'un taureau blanc. Et donc concrètement, elle a un rapport sexuel avec un taureau. Mais vraiment décrit de manière
très précise.
Très précise, très frontale. Et la question du désir est là-dedans. Et en même temps, quand on le lit, on se dit, mais oui, il veut revenir à quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit, Zeus sous la forme d'un cygne a violé Léda? C'est-à-dire comment matériellement un signe, enfin vraiment, oui. Corporellement. Et ce texte, par exemple, est dédié à Philippe Descola. Alors moi, ça m'a fait rire. D'imaginer Philippe Descola lire ce texte, enfin, un anthropologue qui a donc à réfléchir aussi sur... Et c'est ça aussi, c'est là aussi où Michon est un immense roublard. On sent qu'il est documenté aussi sur les questions actuelles. La question animale, sur la question, du féminisme. Il y a cette question-là qui apparaît, même si on sent que, il est pas là-dedans. Et c'est ça aussi qui est extrêmement mandaté, c'est la question du rapport sexuel en tant que rapport hétérosexuel, qui est le rapport mythologique fondateur, même s'il y a quelques mentions de l'homosexualité avec Actéon, des choses comme ça. Mais voilà, et donc voilà, on a cet objet. J'ai eu une intuition, un sentiment à la lecture, c'est que j'ai eu envie de le poser sur une étagère pendant 10 ans et de le relire dans 10 ans pour voir ce que ça donne.
On se donne rendez-vous dans 10 ans, comme disait l'autre. Johan Farber, sur le féminisme, sur les femmes, sur l'érotisme, quel regard vous avez jeté sur ce livre?
Alors, moi je dirais, j'écris l'Iliade, mais aussi j'écris Priape, parce que le dieu qui est véritablement adoré ici, c'est Priape. Et effectivement, ici, il y a un érotisme de la pornographie, hein. Je crois qu'il y a vraiment un grand plaisir de Michon à écrire, les auditeurs me pardonneront, le mot bite à énormément de pages pour que nous ayons des citations. Il y a une citation, page 50, il y a de la bite et de la bite, signé Pierre Michon. Et je pense qu'il s'amuse beaucoup, avec ça. Mais je dirais que ça a ses limites, en fait. Parce que le texte bute sur, finalement, un jeu sur le masculinisme. C'est-à-dire que le texte, on ne sait pas décider, finalement, si c'est un texte masculiniste ou qui joue sur les codes du masculinisme. Et à partir de là, je dirais qu'il y a une zone flottante où là, le dispositif atteint, il me semble, ses limites. Mais le tout est réinscrit, il me semble, dans une démarche profondément original, qui éclaire d'ailleurs rétrospectivement les deux bœufs et qui montre que en fait Michon s'amuse beaucoup. Il dit par exemple à propos du texte que vous citiez, il y avait c'est du Michon, c'est-à-dire c'est sadique et gnangnan. Et effectivement, on peut dire beaucoup de choses de Michon, mais on peut pas dire qu'il est gnangnan. Voilà. Et donc il y a vraiment ce jeu qui se met en place. Et je crois que l'interrogation notamment sur le féminisme, elle peut être datée. Je crois que elle joue volontairement sur les dates, sans qu'on puisse démêler, et ça donne, je dirais, un petit peu une aporie à ce texte. Et effectivement, faudrait peut-être le relire dans 10 ans pour voir si d'ici là, il n'y a pas d'autres textes de Michon qui se sont ajoutés pour démolir à nouveau cette figure du grand écrivain, cette névrose nationale qui est la sienne.
J'écris l'Iliade de Pierre Michon, c'est sorti, ça sort chez Gallimard le 6 février prochain.
12h, 13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Et c'est un auteur de la même génération que Pierre Michon. Olivier Rollin vient de faire paraître Vers les îles éparses. Ces îles, ce sont de minuscules territoires français dans l'ouest de l'océan Indien, près de Madagascar. L'auteur raconte son voyage à bord d'un bâtiment militaire, le Champlain, où il a fait office, écrit-il d'ailleurs, de vieux lettrés sceptiques, c'est ce qu'il dit, à côté d'un équipage de jeunes marins pleins de vie. Journaliste, voyageur au long cours, Olivier Rollin livre ici le récit d'un périple vers des territoires superbes, mais aussi, c'est vrai, vers un état plus redouté, celui de la vieillesse. On commence avec un avis, Johan Farber.
Alors moi j'ai trouvé que c'était vraiment pour moi une excellente surprise. Vraiment un très bon texte, très enlevé, un récit de voyage auquel nous avait pas du tout habitué Olivier Rollin. Pour moi je crois que c'est même son meilleur texte. C'est à la fois très ironique sur lui-même, très distancé et très loin de l'image que on avait pu se construire et qu'il avait cherché à construire dans d'autres textes et qui était une image beaucoup plus, alors pour le dire assez rapidement, de baroudeur, oui. De grands d'hommes assez virils et virilistes d'ailleurs, qui pouvaient expliquer un peu la vie à tout le monde. Et je trouve que c'est vraiment une des très grandes réussites de cette rentrée d'hiver.
Romain de Bec-de-Lièvre.
Oui, moi j'ai jamais lu Olivier Rollin, donc c'est mon premier, donc j'ai un regard absolument frais et neuf et voilà. Oui, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ce récit très charmant. Ça avait vraiment un charme quoi qui opère, et notamment dans la question de l'humour qui est quand même maîtrisée d'un bout à l'autre.
On va écouter un extrait de Vers les îles éparses, ce joli titre d'Olivier Rollin, lecture Oriane Delacroix.
Le matelot en short et marinière blanc et béret à pompons venu m'accueillir à Roland-Garros. L'aéroport, pas le stade de tennis où je n'ai jamais mis les pieds, a une tête extrêmement avenante. Nous étant extraits des embouteillages de Saint-Denis, roulant vers le port dans sa fourgonnette Kangoo, nous longeons sous la falaise la route côtière perchée en mer sur ses pieds de béton. L'épithète pharaonique, que la langue médiatique accole volontiers aux vastes ouvrages, les travaux sont aussi facilement pharaoniques que les rapports accablants, conviendrait parfaitement à la route côtière, à cette réserve près que les pharaons, ou à tout le moins leurs chefs de travaux, terminaient leurs pyramides, tandis que la route, dans un état d'inachèvement qui dure depuis des années, s'arrête de façon abrupte à la façon d'un plongeoir géant au-dessus de l'océan. Qui a vu, depuis la voie ferrée Paris-Orléans, la ligne de l'aérotrain, construite au cours de l'utopique année 1968, allonger ces kilomètres de béton rongés de loin en loin par la végétation au milieu des platitudes du Loiret, pourra se former une idée de ce qu'est la route littorale. Sauf que là, c'est bien plus grand, plus haut, plus large, plus majestueux, en un mot. Et qu'à la place de la Beauce, il y a l'océan Indien. Ses baleines, ses requins, ses caravelles portugaises et ses galions espagnols.
Vers les îles éparses d'Olivier Rollin. Johan Farber, il a changé alors Olivier Rollin là?
Oui, il a changé et en se posant en fait la même question que Pierre Michon. C'est-à-dire comment moi, entre guillemets, grand écrivain, je vieillis. Et en fait, à cette question du mythe du grand écrivain, Olivier Rollin ajoute la question du vieillissement. Et cette question du vieillissement, d'ailleurs, il embarque sur le bateau avec un grand livre de fin de vie, qui est celui de Chateaubriand, La vie de Rancé, et qui est réputé, parce que Barthes l'a analysé notamment, comme une sorte de livre de la maturité où s'opère un changement chez Chateaubriand de son écriture. Et c'est dans ce changement d'écriture, placé sous le signe de Chateaubriand, mais aussi de Sandrard, hein, du Bourlingueur, que se place ce récit, et vieillir va très bien à Olivier Rollin, parce que au lieu d'avoir cette posture, je dirais, de contrôle, de maîtrise, il est dans un refus du magistère, c'est-à-dire que il devient en fait le handicap et le défaut de cette expédition. On a dit qu'il était cet être insolite, et puis il est vieux, et donc il ne cache pas du tout sa vieillesse en roulant des mécaniques. Il le dit tout de suite, il est si fragile et si vermoulu que il peut rien faire. Et en fait, il handicape cette expédition. Il a toujours peur d'être de trop. Il y a une scène hilarante où, en fait, il y a un test pour savoir s'il y a le coronavirus sur le bateau. Et il a peur lui-même d'avoir le corona. Et donc, non pas d'avoir le corona pour lui, mais de mettre en danger, en fait, toute l'expédition. Et je pense que cette modestie, cet effacement et la manière dont, finalement, Olivier Rollin devient l'antithèse même de ce qu'il s'était construit comme image dans Tigre en papier ou dans d'autres livres qu'il avait pu faire, avec une narration qui aussi est extrêmement simple. Olivier Rolla a toujours eu une œuvre dominée par des constructions formelles, toujours dans le sillage de Finnegan's Wake de Joyce ou de l'Ulysse de Joyce, c'est-à-dire finalement un formalisme qu'il questionnait. Et ici, on est face à un récit qui est comme la vie de Rancé de Chateaubriand, une espèce de grande ligne, très frêle, très droite, très modeste et anti-héroïque. C'est vraiment une très grande réussite.
Romain de Maguelièvre, vous parliez de l'humour, là, pour le coup, qui était très présent. Oui, bon, et maîtrisé, surtout.
On l'a entendu dans la lecture, ouais, c'est présent dès les premières pages, et ça, ce ton-là va se maintenir sur toutes les pages. L'humour vient aussi énormément de la situation et de l'impossibilité aussi de la figure héroïque. C'est-à-dire, il est embarqué sur un navire de la Marine nationale, qui s'appelle le Champlain, qui va ravitailler des îles, donc, qui sont des possessions françaises en plein milieu de l'océan Indien, ce qui paraît, enfin, tout est absurde, en fait. C'est-à-dire, ces îles, pourquoi elles sont à la France, pourquoi on les habite, pourquoi il y a des bases là-bas, vu que, en gros, il y a pas de rivière, c'est très très désertique, très compliqué. Lui, la raison pour laquelle il est sur ce bateau et à mourir de rire aussi, c'est parce qu'il a préfacé la guerre du Péloponnèse de Thucydide pour les éditions de l'école de guerre. Et donc, en bonus, ils l'ont dit, bon, bah, embarque-toi sur un navire de la Marine nationale. Donc, tout est absurde. Et il le prend vraiment de ce point de vue-là. Et il le raconte de cette manière-là. Et donc, on a ce double récit de voyage qui est assez beau dans l'articulation. C'est-à-dire, à la fois, je me déplace dans l'espace et en même temps, je me déplace vers la vieillesse. Et il y a ce corps-là qui donc est présent et et qui rend aussi donc à la fois le voyage impossible et en même temps c'est il y a une beauté, une mélancolie qui se dégage de ça. Et là où il est fort, c'est que ce ton humoristique aussi qui fonctionne beaucoup par parenthèses. Souvent la blague est dans les parenthèses quoi. Et il arrive à la tenir. C'est-à-dire c'est très difficile d'arriver à maintenir l'humour et un ton un peu général comme ça. Et donc ça rend ce récit là très très charmant.
Qu'est-ce qu'il nous raconte là qu'est-ce qu'il fait sur ce bateau, sur ce Champlain?
Eh ben, il essaie de pas se faire remarquer, en fait. Il essaie de pas, justement, c'est une position très curieuse. Donc, on a parlé de modestie, on a parlé d'humour, mais c'est comme s'il était le passager clandestin déclaré de cette expédition. Et finalement, il y a comme une inversion totale du récit de voyage. C'est-à-dire que, finalement, ces îles, on en saura très peu de choses. On en saura très très peu de choses. Et c'est lui qui devient la curiosité de ce voyage. C'est lui la figure exotique plus que l'exotisme de ces îles éparses. Et on voit bien qu'il essaye totalement de s'effacer. Et il y a, et je crois qu'il faut saluer la réalisation de l'édition, il y a des dessins reproduits en couleur qui font de ce livre, hein, qui est pas très long, on peut le dire à nos auditeurs, moins d'une centaine de pages, qui en font aussi un très bel objet. Et lui, justement, il essaie d'être un petit peu un objet, c'est-à-dire de ne pas déranger un petit peu l'ordonnancement de tout ce bateau. Et on voit bien que le récit de voyage est, de manière là encore, extrêmement simple, totalement renouvelé. Et ça, je trouve que c'est vraiment la grande force de ce texte, c'est que rien n'est en force, en fait. Il n'y a rien qui est en force. Et ça en fait vraiment, je crois, un modèle même du récit du vieil écrivain. C'est pas faire injure à Olivier Rollin de parler du vieil écrivain. Et là, on a une sorte de récit d'hyper-maturité. Voilà, et ça lui va, comme je disais tout à l'heure, extrêmement bien. Et
c'est une question de regard aussi, oui. Le regard qu'il pose sur le monde, sur cette génération, en plus, donc une génération de militaires, de jeunes qui ont 25-30 ans, et ça c'est intéressant. Et cette manière-là, oui, ce regard posé est très 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 spécifique, et c'est assez dur à le qualifier. Après, c'est un récit qui est très maîtrisé, on sent qu'il est, alors peut-être à la différence de Michon, c'est quelqu'un qui se retient, il est beaucoup dans la retenue. On sent qu'il pourrait avoir des envolées romantiques, mais il se retient de les faire. On sent qu'il pourrait avoir des envolées un peu, je sais pas comment dire, morales, ou de juger, par exemple, cette génération d'un point de vue qu'on pourrait qualifier de boomer, ou je ne sais quoi. Il a cette délicatesse-là, et il y a vraiment un assez grand travail dans la composition, et c'est vrai qu'on ressort de ce récit en se demandant mais qu'est-ce qu'on a lu aussi ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu des paysages de ces îles, oui, il y a des
espèces d'images. C'est magnifique cet endroit, non ? C'est superbe, j'imagine.
Les descriptions qu'il en fait, il y a du corail, il y a des espèces rares.
C'est très très beau, oui. Et puis, effectivement, il y a toute cette retenue. C'est un peu l'anti-Michon, parce que quand il voit cette jeune fille sur le bateau, il dit « Des pensées inévitables me traversent que je ne transmets pas. » Alors que il s'arrête là où Michon commence, en fait. Voilà, Michon commencerait à raconter Priape, en tout cas j'écris l'Iliade, et il y a effectivement cette manière d'interroger son vieillissement par rapport au temps. Il dit, le conservatisme, il y a une sorte de nouveau conservatisme moral, il parle aussi du féminisme, mais avec beaucoup de bienveillance, jamais dans un espèce de dépit ou d'agressivité ou de remontrance, ce qui fait que le récit, on va pas attendre 10 ans pour le relire cette fois, je pense qu'on peut le porter avec nous, et il a une manière de s'inscrire dans le temps et dans les problématiques de notre époque qui sont, je trouve, vraiment de la part d'un écrivain qui a toujours travaillé sur ces questions, beaucoup de bienveillance, vraiment.
Oui, une vision aussi du voyage et de son impossibilité dans les coordonnées telles qu'il pouvait être au XXe siècle, on peut dire ça. On voit ça, enfin, je sais pas, ils arrivent à Durban, à un moment, une ville qui a l'air absolument terrifiante, où tout l'équipage réserve des Airbnb dans des zones sécurisées par des mitraillettes. Enfin, il voit tout ça aussi, Rollin. Il est en pleine prise avec une chose de la difficulté du monde tel qu'il va. Les rapports géopolitiques, à un moment où il est convoqué par un commandant qui lui dit si jamais il pourrait y avoir des choses avec la Chine, etc., qui paraît absolument absurde, enfin, d'affrontement, parce que la Chine est en tentative de contrôle, de mainmise sur l'Afrique, etc. Et donc, il voit aussi tout ça, avec toujours ce même regard aussi, assez au ras du sol et assez aussi ironique. Et c'est, ouais, on a une vision du monde aussi. Enfin, il voit vraiment le monde, Rollin.
Avec un tout petit livre, on est étonné qu'il y ait autant de choses, en fait. Enfin, ce que vous me décrivez, j'ai l'impression, moi, de voir une grande épopée, finalement.
Oui, c'est ça. C'est peut-être enfin le rêve de Joyce qu'il voulait faire. Joyce disait qu'il voulait ramasser le monde dans une coquille de noix. Et souvent, en fait, pour Olivier Rollin, ça a été des livres extrêmement larges, épais. Et ce petit livre, c'est enfin cette coquille de noix, peut-être, qu'il a trouvé et qui, je pense, lui correspond bien dans une prose extrêmement ciselée, parce que comme on l'a entendu tout à l'heure, c'est extrêmement bien écrit, avec une langue qui, justement, s'interroge sur l'usage des mots, leur impuissance à le dire, et qui va, justement, employer des mots comme barbaroufler. Voilà.
Barbaroufler,
et qui est très heureux
qu'est-ce
de le faire.
Qu'est-ce à dire?
Voilà. C'est une manière c'est une passion lexicale sur, en fait, le vocabulaire maritime qu'il se réapproprie. Voilà. Et il découvre ce vocabulaire maritime avec une joie de vieil enfant, comme il le dit.
Donc, c'était Vers les îles éparses, paru chez Verdier, d'Olivier Rollin, et nous avons également parlé de J'écris l'Iliade de Pierre Michon, qui paraîtra chez Gallimard le 6 février prochain. Johan Farber, Romain de Becdelièvre, merci beaucoup d'être venu dans les Midis de Culture, et vous retrouvez évidemment toutes les références sur la page des Midis de Culture. Vous qui nous écoutez, c'est à vous maintenant de vous faire une idée.